VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La Cour pénale internationale doit prononcer jeudi une décision très attendue concernant la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud pour avoir refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar El-Béchi poursuivi pour génocide au Darfour. Selon les experts, cette décision devrait servir à l'avenir de référence pour la coopération entre les États et la CPI. Le mois dernier, la procureure de la Cour, Fatou Bensouda, a renouvelé son appel au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il soutienne les efforts d'exécution des mandats d'arrêt. Le régime burundais s'enfonce dans la violence et transforme le pays en dictature, a averti aujourd'hui la Fédération internationale des droits de l'homme. Selon la FIDH, le paysage politique s'est resserré autour d'un parti unique, le CNDD-FDD, devenu également un parti État, un projet de modification actuelle de la Constitution faisant sauter la limite des mandats présidentiels est aussi critiqué. L'ONG appelle donc la communauté internationale à déployer une force de police onusienne et à créer une force Union africaine ONU chargée de la protection des civils. Elle appelle également la Cour pénale à ouvrir une enquête avant octobre 2017, date à laquelle deviendra effectif le retrait du Burundi de cette institution. À RCA, en République centrafricaine, la situation sécuritaire reste volatile à l'intérieur du pays. Plusieurs régions sont encore secouées par les violences armées. Par exemple, des dizaines de personnes ont été tuées entre samedi et lundi. Le point sur la situation avec notre correspondant Freeman Sipila.
Les attaques contre les civils ont nettement augmenté ces derniers jours. Plusieurs régions du pays sont de nouveau passées sous contrôle des hommes armés. À Zénio, où la tension est encore vive, les corps jonchent le sol. La maire de la ville appelle à l'aide.
Depuis mardi passé jusqu'à aujourd'hui, les corps restent dehors. Donc les corps, ça commence pour dégager le gouvernement centrafricain. Vraiment, il faut sauver, il reste la population qui est au niveau des catholiques ou au niveau de l'hôpital général, HR ou CINHR, CSR, pour aller là-bas pour ramasser le corps qui restait depuis mardi passé, qui est décomposé, commencé pour remonter jusqu'au niveau des catholiques. Et c'est ça, il faut vraiment prendre la responsabilité pour sauver les populations.
Le week-end dernier, au moins 15 personnes, parmi lesquelles une dizaine d'assaillants ont été tués à la suite d'une attaque d'un site des déplacés sécurisé par la MINUSCA à Kagabandoro. La mission onusienne promet une riposte appropriée en cas d'une nouvelle agression. Vladimir Montero, son porte-parole.
Il y a effectivement une attaque à Kagabandoro, mais la force de la MINUSCA ainsi que l'unité de police qui est déployée depuis hier contrôle les principaux axes de la ville et protège le camp des déplacés. Et grâce à cette posture robuste, les éléments armés ne sont pas parvenus à atteindre leur but dans la ville et nous continuons à assurer cette présence pour mettre en échec cette tentative. Nous faisons tout pour que la population ne souffre des exactions que ces gens s'apprêtaient à commettre.
Dans la préfecture de Lampindi, plusieurs villages aux alentours de Ngaoundaï sont investis dimanche et lundi par des hommes armés du MPC, Mouvement Patriotique Centrafricain et de RJ, Révolution Justice. Le député de la région lance un cri de détresse, Bernard Dila.
Il y a deux jours de cela, il y a RJ et MPC, ils ont envahi deux villages à proximité de la ville de Ngaoundaï, le village Mboum et le village Nzoro. Ils ont pris ce village, tout le monde est parti. Quand un groupe armé a envahi un village, que vous le vouliez ou pas, il y a des dégâts même du point de vue déjà humanitaire, puisque toute la population s'enfuit pour aller dans la brousse. Les femmes enceintes vont vivre dans la brousse, les hommes qui sont malades vont vivre dans la brousse. Mais comment ça va se passer? Ils ont signé un engagement, ils n'ont qu'à respecter leur engagement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils nous disent la vérité, parce que la population commence à en avoir marre.
Cette spirale de violence surgit alors que les principaux groupes armés du pays ont signé le 19 juin dernier à Rome un accord dit entente de Sant'Egidio. Un accord politique pour la paix recommandant un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire centrafricain. Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
11h04 à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
La force anti-djihadiste du Sahel est entrée dans sa phase de préparation après le sommet des chefs d'État du G5 Sahel dans la capitale malienne. Le ministre malien de la Défense a précisé à VO Afrique que la force a le soutien entier et plein de l'Union africaine. Tiedan Koulibaly explique ici la configuration des composantes attendues sur le terrain.
C'est des soldats qui vont essentiellement se déployer aux frontières entre les États membres. Ça veut dire qu'il y a un fuseau, on les appelle des fuseaux, il y a un fuseau ouest du G5 Sahel qui va sécuriser la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ça veut dire que des soldats vont être déployés de part et d'autre de la frontière jusqu'à 50 km de la frontière. Ça, c'est donc le fuseau ouest. Là, on aura la même chose au fuseau centre, c'est-à-dire frontière Mali-Burkina, frontière Mali-Niger, frontière Burkina-Niger, et puis le fuseau est de la frontière Tchad-Niger. Et donc, nous pensons que c'est bien avant la fin de l'année que tous ces soldats vont être déployés, Inch'Allah.
Tiedan Koulibaly, ministre malien de la Défense. Le journaliste nigérien Ali Soumana, fondateur de l'hebdomadaire privé Le Courrier, connu pour ses critiques contre le régime, a été écroué lundi. Il est accusé de soustraction frauduleuse d'une pièce relative à une bataille judiciaire opposant le Niger et une société libanaise. Le contentieux concerne la résiliation en 2012 par le Niger d'un marché de fabrication de passeports biométriques attribué en 2011 à la société libanaise Africad par le ministère nigérien de l'Intérieur. Le 29e sommet ordinaire de l'Union africaine a débuté hier à Addis Abeba. Les chefs d'État et de gouvernement qui y participent vont se pencher sur les conflits et crises frappant le continent. Cette année, la question de l'investissement pour la jeunesse est au cœur des débats. Ibrahim Makan, spécialiste de l'Union africaine, explique la part belle faite aux jeunes.
Une bonne partie des changements auxquels on a assisté aussi bien en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, je pense notamment à la Gambie, je pense au Burkina Faso, tous ces changements sont dus aux jeunes. Et donner espoir à cette jeunesse, cela ne veut pas simplement dire faire des grands discours, mais c'est changer structurellement l'éducation, la formation, la santé. Ce sont ces secteurs qui donnent espoir aux jeunes. Vous savez, nos universités aujourd'hui, c'est de vieilles universités, c'est des universités qui ont été créées par le système colonial, qui jouent toujours la fonction que le système colonial leur avait assignée. Et donc, il faut qu'on transforme ces universités. Il faut que ces universités soient tournées vers le développement du continent. Le système éducatif dans sa totalité.
Ibrahim Khan. Les sauveteurs étaient à la recherche lundi de 14 mineurs bloqués sous terre après l'effondrement d'un puits de mine clandestin au Ghana. L'incident s'est déroulé dans la ville de Presti, Nsuta, dans le sud du pays où se trouve la mine abandonnée qui s'est effondrée. Nous ne pouvons pas confirmer s'ils sont morts ou vivants, a déclaré à l'AFP le chef de la police du district de Nsuta, Tsu Sinaku. Il a précisé que des gens avaient réussi d'abord à communiquer avec les mineurs bloqués au fond du puits à 80 mètres de profondeur, mais que depuis lundi après-midi, ils n'avaient plus réussi à les contacter.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Corée du Nord a affirmé aujourd'hui avoir testé avec succès un missile intercontinental, ce qui serait une avancée majeure dans ses efforts pour être en mesure de menacer les États-Unis du feu nucléaire. Des experts américains ont de leur côté estimé que l'engin testé mardi matin, au moment où les États-Unis se préparent à célébrer la fête nationale, pourrait atteindre l'Alaska. Cet essai a entraîné une vive réaction du président américain Donald Trump, qui a demandé à Pékin, principal soutien international de Pyongyang, de mettre fin à cette absurdité une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. La Chine, principal allié de la Corée du Nord, a pour sa part appelé toutes les parties à la retenue. Le président Trump doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel avant le sommet du G20 de cette semaine à Hambourg, en Allemagne. Selon le porte-parole de Mme Merkel, cette rencontre pourrait avoir lieu jeudi soir. Dans les conversations téléphoniques séparées hier avec Angela Merkel et le premier ministre italien Paolo Gentiloni, le président américain a discuté avec eux de questions climatiques et commerciales ainsi que du financement de l'entrepreneuriat féminin. M. Trump s'est aussi entretenu par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron. Et des forces soutenues par les États-Unis qui tentent de reprendre la ville syrienne de Raqqa aux djihadistes de l'État islamique ont ouvert des brèches dans le mur qui entoure la vieille ville, a annoncé lundi l'armée américaine. Entrée le 6 juin dans Raqqa, bastion de l'État islamique, les FDS se sont ensuite emparés de plusieurs quartiers dans l'est et l'ouest de la ville. Jean-Roger Billon, ce sera tout.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.